ce matin, donc je voulais mentionner, elle est traitée un peu, très brièvement, avant d'entrer dans l'étude elle-même. Le titre pour l'étude ce matin est le même que la semaine passée, c'est-à-dire « La femme, l'aide semblable à son mari » et comme parenthèse, j'ajoute « La femme dont le mari n'est pas un chrétien, n'est pas chrétien ». Donc voilà les deux questions qui ont un rapport avec l'étude de ce matin. Un chrétien peut-il se marier avec un non-chrétien? La deuxième question est une phase tout simplement « Étude sur l'éducation des enfants d'un couple dont l'un des époux n'est pas chrétien ». Vous voyez donc le problème. Un des conjoints est chrétien et l'autre n'est pas. L'un des parents est chrétien et l'autre n'est pas. Du fait que je n'ai pas pu parler avec ceux qui ont posé ces questions, je ne peux pas me garantir que les réponses ou que mes réponses seraient entièrement satisfaisantes. Je vais essayer de faire mon mieux et le plus bref possible. À la question, un chrétien peut-il se marier avec un non-chrétien? Je réponds oui, un chrétien peut se marier avec un non-chrétien, mais c'est à déconseiller. Je dirais même à déconseiller très vigoureusement. Dieu le permet, mais il conseille que c'est dangereux, même très dangereux, si on veut avoir le bonheur. Donc, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 7, donne des exemples des différents cas. Aux mariés où tous les deux sont chrétiens, il dit, c'est en 1 Corinthiens 7, les versets 10 à 11, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. » Les chrétiens, selon le passage, selon le contexte, ne doivent pas se séparer l'un de l'autre. S'ils se séparent, c'est-à-dire qu'ils se divorcent, parce que c'est le contexte du passage, ils ne doivent pas se remarier, et ou s'ils veulent être mariés, il faut qu'ils se réconcilient. Et puis, Paul s'adresse à notre question dans les versets 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis, qui dit, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne répudie pas, et si une femme a un mari non-croyante et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir femme si tu sauveras ton mari, ou comment savoir mari si tu sauveras ta femme? Bon, les cas mentionnés ici sont des cas où probablement un des époux a été converti après le mariage. Paul est en train de dire que le fait que l'autre époux n'est pas chrétien n'est pas une raison de se divorcer. Le chrétien, dit-il, est appelé à vivre dans la paix, verset 15, c'est-à-dire appelé à ne pas créer les divisions, même dans le mariage. Le principe reste valable dans le cas des deux personnes qui vont se marier aussi. Si le chrétien ou la chrétienne insiste qu'il ou qu'elle va se marier avec un non-chrétien, il ou elle doit comprendre que ce mariage est pour la vie. Il n'y a qu'une raison donnée dans les Écritures pour le divorce, où la personne innocente a le droit de se remarier sans commettre l'adultère, et la raison, c'est l'infidélité. Le cas où le non-croyant départ n'est pas de raison pour le chrétien de se remarier, selon mon avis. Paul dit tout simplement que le chrétien n'est pas obligé de garder le non-croyant à tout prix et contre sa volonté. Et entre parenthèses, j'ajoute que si le chrétien force ou donne des occasions pour le non-chrétien d'être infidèle, afin d'être libre de se remarier, il ou elle sera aussi coupable que l'infidèle. Je dis cela parce qu'il y a des cas où les chrétiens ou les chrétiennes font cela afin d'être libres de se remarier pour cause d'adultère. Mais une telle action de la part d'un chrétien ne sera pas valable, et elle est condamnable par Dieu. voir Matthieu 18, le verset 7. Cela dit, celui ou celle qui veut se marier avec un non-chrétien doit comprendre que malgré les circonstances, son mariage est pour la vie. Parce que c'est aussi l'apôtre Paul qui dit, on va lire maintenant en 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et à 16, 2 Corinthiens 6, 14 à 16, là l'apôtre Paul dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Bon, dans ce passage, Paul avertit le chrétien que de telles unions, soit dans le mariage, soit dans les affaires, soit dans d'autres domaines, peuvent avoir des conséquences graves, dans le sens que le chrétien soit tenté de retourner dans le péché, la vie du péché, ou tout au moins il aura une vie très difficile dans le sens spirituel. Et cela m'amène à parler de la deuxième question, c'est-à-dire l'éducation des enfants dans une telle circonstance. Encore, je serai très bref, mais si le mari qui est chrétien, si c'est le mari qui est chrétien et qui vit fidèlement au Christ, il y aura peut-être moins de problèmes. S'il remplit son rôle de mari, c'est-à-dire chef pionnier et sacrificateur, que nous avons vu dans les études précédentes, il va, sauf dans des cas très rares, gagner le respect de sa femme et donc sa soumission à lui. Il va donc sans dire qu'il aura aussi le respect de la part de ses enfants. Il sera libre de les éduquer, de veiller à leur instruction morale et spirituelle et à leur discipline. Mais si c'est la femme qui est chrétienne et qui vit fidèlement au Christ, il risque d'avoir beaucoup plus de problèmes. Le commandement de Dieu à elle, comme nous allons le voir, est qu'elle soit soumise à son mari. Mais si le mari ne voit pas l'importance d'une éducation morale et spirituelle et d'une discipline biblique, qu'est-ce que la femme va faire? Bon, je dirais qu'elle doit prendre l'initiative dans un tel cas et veille à leur éducation morale et spirituelle et à leur discipline elle-même, ce qui soit très difficile sans l'appui de son mari. Et si le mari s'oppose à une éducation spirituelle et morale, et peut-être il insiste même que les enfants le suivent dans une autre religion, qu'est-ce que la femme va faire? Bon, d'abord, elle se soumet elle-même à Dieu. Ensuite, elle se soumet elle-même à son mari. Et puis, elle prie et elle donne le bon exemple à son mari et à ses enfants de ce qu'une chrétienne doit être. Surtout, elle ne doit jamais accuser Dieu à cause de ces circonstances, parce que si elle avait choisi de se marier avec un non-chrétien, elle doit être assez forte pour subir des conséquences mauvaises. Paul a dit aussi, n'est-ce pas, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ou j'ajoute, une femme aura semé, il ou elle le moissonnera aussi. » Galates 6, le verset 7. Bon, c'est très dur ce que je dis, je sais, mais c'est Dieu qui l'a dit en premier. Vous aurez ce que vous avez choisi. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce verset. Et c'est pourquoi je conseille contre une telle union et donne tous les avertissements que je peux. Il n'y a pas seulement le bonheur du mariage en jeu. Il y a aussi les âmes, celles du chrétien ou de la chrétienne qui s'est mariée avec un non-chrétien, celles du non-chrétien, et seuls des enfants qui peuvent naître d'une telle union. Donc réfléchissez bien avant de dire oui à une telle possibilité. Et ce n'est pas trop tard de dire non si vous avez déjà dit oui. Mais je sais que l'on dit, mais il m'aime et il va changer. Mais moi je dis oui, mais il s'aime aussi. Et sans être chrétien, cela va être très difficile pour lui ou elle d'apprendre comment aimer les autres jusqu'à les mettre en premier. Rappelez-vous de ce que Paul a dit, quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Ou plus haut, quelle communion entre la lumière et les ténèbres? De Corinthiens 6, 14 à 15. Et puis, on me dit parfois, mais il est gentil. Et je réponds, est-il chrétien? Non, mais il est honnête. Est-il chrétien? Est-il soumis à Jésus et à sa volonté? Non, mais il est tendre. Est-il chrétien? Parce que s'il n'est pas chrétien, il n'y a rien qui garantit qu'il va rester gentil, honnête et tendre. Enfin, d'être chrétien ne la garantit pas non plus, parce qu'on peut retourner dans le péché. Mais d'être chrétien le rend beaucoup plus possible qu'il va rester comme cela. Au moins, il a un bon commencement. Il reste à envisager de plus près le problème posé par les mariages mixtes, c'est-à-dire là où l'un des époux seul est chrétien. Donc si la femme est chrétienne et non le mari, la soumission demandée à la femme sera-t-elle par la même mise en question? Et l'apôtre Pierre répond non. Cette soumission est inconditionnelle. Même s'il en est qui refuse de croire à la parole de Dieu, malgré toutes les circonstances, malgré toutes les difficultés que cette situation entraîne, la femme restera soumise non seulement pour conserver l'affection de son mari, mais parce qu'elle désire sa conversion. La seule exception sera dans le cas où le mari commande quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul précise en Colossiens chapitre 3, le verset 18, « Femme, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. » C'est ce que Jésus veut. Mais il y a toujours le principe établi par Pierre et Jean devant le Sanhédrin en Actes chapitre 4, le verset 19 et aussi Actes 5, le verset 29, où il demande à ces hommes qui lui avaient commandé de ne plus prêcher au nom de Jésus, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 3, les versets 1 à 6. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Et ainsi se paraissent autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Telle Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendants si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il y a trois raisons, selon Dieu, donc pour la soumission de la femme à son mari. Premièrement, pour servir d'exemple soit de son attitude envers Dieu, soit de son attitude envers les autorités. Deuxièmement, pour avoir de l'ordre dans la famille, de l'ordre dans la société. Et troisièmement, pour amener son mari non chrétien au Seigneur. Cette idée d'être soumis aux autres trouve un sens général dans la vie de l'apôtre Paul. C'est l'amour agapé en action. En 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19, Paul dit « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » La femme a sa liberté dans le Seigneur, mais Dieu désire qu'elle soit soumise à son mari pour être un exemple aux autres, pour avoir de l'ordre, et pour convertir son mari ainsi que ses enfants. 1 Pierre 3, les versets 1 et 2. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. La parole ici semble parler de la parole prêchée, c'est-à-dire la prédication. Même s'il refuse d'accepter la parole prêchée, le mari peut être impressionné à la longue par un comportement qui atteste que la vie de sa femme est réellement transformée par la parole qui vient de Dieu. Il discerne dans sa vie un signe de l'authenticité de ce qui lui a été annoncé précédemment, et il sera ainsi gagné comme sans parole. En effet, autrefois comme aujourd'hui, une conduite pure, contrastée avec les mœurs relâchées de l'époque, ne pouvait s'expliquer que par le respect d'une volonté supérieure, celle de Dieu. Comme dans le Proverbe 31, ici, Pierre montre que ce qui compte à la lumière de l'Évangile, c'est l'être profond, tel que Dieu le discerne, et non pas les apparences extérieures. Alors que la beauté extérieure de la femme se fane et s'éternit, avec des années, sa parure intérieure, c'est-à-dire fruit de l'action de Jésus, demeure à jamais car elle est incorruptible. Et cette parure intérieure incorruptible qui vient du Christ consiste en particulier, comme dit Pierre, en un esprit doux et paisible, et en un esprit libéré de toute agressivité à l'égard de quiconque, surtout son mari. Pierre invoque à l'appui de son exhortation le témoignage de l'Ancien Testament. En effet, il ne s'agit pas simplement pour la femme chrétienne de faire preuve de sa bonne moralité, mais aussi de tenir sa place dans la lignée des témoins de la foi, commencée dans l'Ancien Testament et continuée dans le Nouveau. Et parmi ces femmes croyantes, l'une est spécialement nommée, c'est Sarah, les versets 5 et 6. Et ainsi se paraissent autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, car d'elle, c'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et là, l'apôtre Pierre s'adresse aux femmes. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes, dit-il au féminin. Bon, Sarah est mentionnée pour deux raisons. Premièrement, elle appelait Abraham son Seigneur, l'exemple de sa soumission. Mais deuxièmement, elle est mentionnée parce qu'elle est considérée comme la mère du peuple de Dieu. Vous vous trouverez dans un autre passage, en Ésaïe chapitre 51, le verset 2. Par la foi, selon Genèse, ou par la foi selon Galates chapitre 3, le verset 7, on devient enfant d'Abraham et par conséquent aussi de Sarah. 1 Pierre 3, le verset 6. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes, Pierre dit aux femmes chrétiennes. Comment? Verset 6. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. En d'autres termes, en accomplissant le rôle que Dieu a ordonné, sans craindre l'intimidation. Ces derniers mots, sans craindre l'intimidation ou par aucune crainte, font allusion aux éventuelles réactions violentes du mari non chrétien. Cette exhortation de ne pas craindre une intimidation ne vise pas nécessairement le désir d'un homme non chrétien de faire quelque chose de mal. Cela peut comprendre sa colère capricieuse. De plus, j'ajoute et j'exhorte personnellement que les femmes ne soient pas intimidées par d'autres femmes qui encouragent une rébellion contre le dessein de Dieu. Je sais que le mouvement pour la libération de la femme est très à la mode aujourd'hui, mais il ne faut pas être intimidé par cela non plus. Cette soumission, comme une servante du Seigneur, implique en fin de compte une exaltation, parce que c'est par son amour de Dieu que l'épouse chrétienne s'insère dans l'ordre de la création et qu'elle se soumet à son époux, et c'est par amour pour son époux et son âme qu'elle se soumet aussi. Et donc, ces traits caractéristiques sont la soumission pleine d'humilité, le sentiment de paix profonde, la bienfaisance et la liberté de toute crainte de son mari et peut-être des femmes parce qu'elle est pénétrée d'amour et de crainte de Dieu. Surtout dans le cas où le mari n'est pas un chrétien, les qualités de l'amour agapé sont nécessaires. Rappelons-nous que la dernière qualité donnée dans la liste en 1 Corinthiens chapitre 13, c'est au verset 7, c'est que l'amour supporte tout. Et littéralement, cette phrase peut être traduite « l'amour demeure sous le poids » ou « l'amour tient ferme malgré les circonstances ». La traduction économique, la Taube, dit « l'amour endure tout ». Et Paul est en train de dire, lorsqu'on le met dans le contexte du mariage, que l'on ne renonce jamais à la vie conjugale malgré les circonstances. En d'autres termes, on ne cherche pas le divorce parce que l'engagement est fait. Et je dis cela même dans le contexte de l'infidélité. L'idéal, selon la Bible, c'est que même dans le cas où le mari ou la femme où il soit infidèle, que l'autre essaie de garder intact le mariage, qu'on ne cherche pas le divorce, même dans ce cas-là. Mais c'est le seul cas où le divorce est permis, où on peut se remarier. Bon, peut-être le choix de se remarier avec un non-chrétien a été fait. Peut-être on est devenu chrétien après le mariage. Peu importe. Le mariage est à jamais et l'amour agapé ne renonce jamais. Comme j'ai dit dans l'étude des qualités de l'amour agapé, même dans les situations soi-disant intolérables, il peut y avoir de la joie pour le partenaire qui continue d'agir comme un chrétien. Dans un tout autre contexte, Pierre avait dit, et le principe est valable dans le mariage, c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il le dit en 1 Pierre chapitre 2, le verset 19. Et Pierre dit cela dans le chapitre, donc, c'est le chapitre précédent, juste avant de parler des relations conjugales. Et dans le contexte, Pierre s'adresse aux serviteurs et le dit d'être soumis à leur maître. S'il souffre dans cette situation de soumission, c'est une grâce que de supporter le support utile. S'il souffre parce qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il n'y a pas de gloire dans cela, dit-il. Au chapitre 3, lorsqu'il parle de la soumission de la femme à son mari, les circonstances peuvent être semblables. C'est-à-dire qu'elle peut souffrir, elle peut avoir de la peine parce que son mari n'est pas chrétien ou n'agit pas comme un chrétien. Si elle se rebelle pourtant, c'est-à-dire elle n'agit plus selon les principes de l'amour agapé, alors dans ce cas-là, le proverbe français peut s'avérer exact. Le mariage vient de l'amour comme le vinaigre du vin. C'est-à-dire, l'amour est devenu aigre et le mariage est voué à l'échec, ce qui est contre la volonté de Dieu. Bon, pour terminer, rappelons-nous de ceci. La soumission n'est pas un état de dégradation. C'est quelque chose que l'on fait par respect et par amour pour Dieu, et par respect et par amour pour son conjoint ou son semblable, parce que nous sommes tous appelés à la soumission dans une circonstance ou l'autre. Éphésiens chapitre 5, le verset 21. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu, dit l'apôtre Paul. Et aussi, la soumission est une occasion pour servir. En Luc 22, le verset 24 à 28, Jésus dit à ses disciples que si vous voulez être le premier, il faut que vous serviez les uns les autres. Il faut servir. Même si on souffre dans une telle situation de servitude ou de soumission, selon le cas, même si on souffre beaucoup, c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. 1 Pierre 2, le verset 19. Et dans les circonstances où le partenaire n'est pas chrétien, on se soumet quand même. S'il y a des enfants, on fait son mieux pour les éduquer dans le bon chemin. Et le reste, il faut laisser à Dieu. Il faut beaucoup prier et pour se soumettre soi-même à sa volonté. Que Dieu soit toujours notre bon guide. Amen.